Bonjour Anne-Catherine Wagner. Quelle place occupe finalement la mobilité internationale dans la formation des élites que vous avez étudiées? Quelles compétences ou ressources y acquièrent-ils?
Merci beaucoup. Donc les élites que j'ai étudiées, hein, il s'agissait de cadres internationaux, c'est-à-dire des hauts cadres et dirigeants qui travaillaient dans des multinationales et dont la carrière s'inscrivait dans une perspective internationale, donc qui étaient amenés à beaucoup bouger, vivre quelques années à l'étranger, qui vivaient vraiment dans un espace professionnel international. L'enquête que j'avais fait plus précisément, c'était les cadres étrangers expatriés à Paris. Donc je voyais des cadres américains, allemands, etc., etc. Alors, pour répondre à votre question, il y a deux dimensions. Hein, leur formation, la mobilité jouait un rôle vraiment très important dans leur formation à eux, mais aussi dans la formation qu'ils ont ensuite donnée à leurs enfants. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui est très important dans les stratégies éducatives. Alors dans la formation à eux, c'était donc des managers plutôt dans les domaines de la finance, de l'import-export, etc. Ils avaient fait très souvent des écoles de gestion, des business schools. Et du coup, dans ce type d'études, dans ce type de filière, hein, les formations à la mobilité sont très importantes. Hein. Quand on regarde les étudiants qui vivent, les étudiants internationaux, ceux qui vivent à l'étranger, je crois que la première filière, c'est la gestion. C'est vraiment un domaine d'études où on forme les futurs cadres, hein, à bouger, voyager. Il y a beaucoup de doubles diplômes, d'accords entre des business schools de différents pays. Il y a ces fameux MBA, là, les diplômes qui sont des diplômes à l'origine américain, mais qui maintenant sont vraiment des diplômes internationaux préparés dans le monde entier avec des instances d'accréditation internationaux qui les classent, etc., etc. Donc ils ont une formation où ils sont ils sont formés pour être internationaux avec les langues, les mêmes types de références d'un pays à l'autre, etc. Et pour travailler, donc leur but c'est vraiment de travailler dans des structures internationales. Et ensuite, ce que je disais, c'est que ce que j'ai beaucoup plus étudié, sinon, c'est la manière dont se formaient leurs enfants. Mm-hmm. C'est des familles qui accordent beaucoup d'importance à la transmission de ces ressources-là, donc à la transmission à leurs enfants de ces formes de rapport à la mobilité, notamment dans les écoles. Parce qu'à l'étranger, il y a une série d'écoles pour expatriés, écoles internationales, bilingues, etc. Donc c'est là que j'avais fait mon enquête en région parisienne. Et ces écoles, vraiment, qui s'adressent essentiellement à des enfants venus du monde entier, accordent une grande importance justement à la formation à la mobilité, hein, c'est-à-dire apprendre aux enfants que la mobilité géographique c'est quelque chose de normal, hein, au sens c'est tout le monde bouge, ils ont des élèves dans leur classe qui viennent de partout, qui ont vécu dans plein de pays, qui viennent au fur et à mesure de l'année scolaire, qui partent, etc., etc. Donc ils sont vraiment socialisés de manière à concevoir que leur univers c'est le monde entier, que leurs parents peuvent être amenés à déménager, etc., etc. Donc ça c'est des choses qui sont très importantes. Alors les compétences qu'on acquiert dans ces formations, hein, ce sont des compétences linguistiques, bien sûr, hein, ce sont des écoles qui accordent toujours beaucoup de place aux langues, hein, avec des systèmes bilingues, des enseignements de langue renforcés, mais à la limite pas seulement, et c'est peut-être pas forcément ça le plus important, parce que ce qui est important dans ces écoles, c'est vraiment le recrutement international. Et donc, s'ils parlent les langues, ils ont un rapport aussi naturel aux langues, hein, ils les parlent avec les nationaux, donc c'est pas du tout pareil que d'apprendre scolairement une langue et de souffrir quand on va être obligé de la pratiquer à l'étranger. Pour eux, voilà, c'est leur univers naturel, hein, ils changent facilement de langue. Il y a beaucoup d'enfants ils apprennent en général plusieurs langues, ils peuvent avoir des parents de deux nationalités différentes, etc., etc. Ils sont habitués à basculer d'une langue sur l'autre et surtout à être à l'aise finalement, même s'ils ne comprennent pas la langue, même s'ils parlent mal, etc. Peut-être que c'est aussi ça quelquefois le capital international, c'est aussi une manière justement de lutter contre une espèce de timidité linguistique qu'on peut avoir quand on est vraiment uniquement cantonné à son espace linguistique. Les langues, les cultures différentes, etc. Les interactions avec des enfants de différentes nationalités, hein, ils sont habitués à parler avec des étrangers, etc. Il y a toute une formation aussi à la, Voilà, socialisation, comment dire, sociabilité à distance, pardon. C'est-à-dire garder des relations avec des amis qui sont partis à l'étranger, etc., etc. Donc, savoir entretenir un réseau très très jeune. Hein, ils ont cette idée que c'est important de garder contact avec des gens. Donc, il y a aussi un capital social international qui se construit dans ces écoles et qu'on apprend à construire avec ce sens des interactions. Et puis voilà, ils apprennent aussi, finalement, il y a aussi toute une dimension un peu morale de l'international. Hein, ils apprennent aussi qu'ils sont, voilà, comment dire, du bon côté des choses. Ils sont du côté de l'avenir, de l'ouverture. Il y a aussi toute une dimension symbolique, hein, le sentiment d'avoir quelque chose de plus, hein, à la fois au sens intellectuel et éthique, hein, par rapport à ceux qui sont cantonnés à leur langue et leur espace national.
D'accord. Ok. Et donc ça, finalement, sans forcément beaucoup bouger, déjà, ils sont acculturés, on pourrait dire, oui, à une mobilité internationale, qui se double, je suppose, de déplacements fréquents, ou peut-être plus fréquents que d'autres enfants.
Bah, c'est-à-dire que dans ces écoles, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mobilité géographique quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils bougent tous les... Je crois que les familles sont arrivées en moyenne, hein, ils restent 3 ans, 5 ans dans un pays. Donc... Ils sont mobiles, hein, ils ont changé de pays, etc. Alors, mais effectivement, dans ces écoles internationales, il y a aussi des enfants, par exemple, il y avait aussi des enfants français dont les parents pouvaient être, par exemple, franco-américains qui étaient dans ces écoles. Ils bougent quand même, de fait, ils bougent quand même. Hein. Il y a les vacances, il y a tout un apprentissage de la mobilité hein, par justement le fait d'avoir de la famille à l'étranger. Ce sont des familles qui sont souvent très dispersées. Mm-hmm. Les vacances à l'étranger, voire justement, je parlais de cette sociabilité à distance, donc aller revoir hein, les amis, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de mobilité. Mais effectivement, je pense que c'est pas uniquement le fait de bouger, c'est le rapport qu'ils ont à la mobilité, où c'est normal, voilà, ça fait partie de...
Oui, c'est intériorisé.
C'est totalement intériorisé. Ouais, c'est même des fois qu'elle le décrit de manière presque génétique. Il y en a qui me disaient, voilà, j'ai un ADN international, j'ai des gènes internationaux. Voilà, ils ont besoin de bouger, voilà, ils ont toujours bougé. Ils ne peuvent pas concevoir de rester tout le temps dans le même endroit, etc. Dans le discours, en tout cas.
Ouais. Oui, d'accord. Et donc ça se poursuit alors au-delà de l'école, peut-être équivalente de l'école primaire ou du collège chez nous, ça se poursuit plus tard dans les études supérieures, j'imagine.
Oui. Surtout aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui vont beaucoup utiliser hein, tous les dispositifs de mobilité, d'échange, etc. qui existent. Hein. À partir du moment où ils ont un diplôme international, parce qu'il y a par exemple il y a des options internationales du bac, il y a un bac international à Genève. L'avantage, c'est que du coup, ils peuvent beaucoup plus facilement choisir en quelque sorte leur pays d'études et qu'ils ont justement voilà, des adresses de ci, de là, des contacts, des références, des souvenirs déjà de différents pays. Donc c'est plus facile pour eux effectivement d'envisager des études à l'étranger puis ensuite d'envisager une carrière à l'étranger. C'est pas systématique, mais voilà, en tout cas à l'époque où j'avais fait mon enquête, c'était quand même beaucoup, c'était beaucoup des jeunes qui avaient fait ce type d'études. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, reprenaient souvent des études de gestion comme leur père. Enfin, ils se retrouvaient souvent dans les écoles de commerce où ils étaient amenés à voyager, oui.
Ces mobilités, ou en tout cas ces capacités à bouger, finalement, leur donnent-elles l'occasion de se confronter aussi à une altérité sociale ou culturelle ?
Ah. Alors là, c'est plus compliqué. Oui et non. Pour l'altérité sociale, honnêtement, plutôt non.
D'accord.
Pour les expatriés, hein, donc je parle de ce milieu un peu particulier, des cadres expatriés hein, qui ont souvent une expérience internationale impressionnante. Hein. Il y en avait qui avaient changé 4 fois, 5 fois de pays, voilà, qui ont de la famille dans le monde entier, qui sont tout le temps dans l'avion, etc. Donc c'est des gens qui bougent énormément, mais qui finalement restent quand même dans un espace relativement homogène d'un pays à l'autre. Hein, déjà l'espace des affaires, hein, même géographiquement, ça se ressemble, hein, ils sont dans la même entreprise, ils sont dans le même espace. Et ces lieux pour expatrier, dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers pour expatrier, hein, on trouve ça voilà, à Paris, à Mexico, voilà, il y a des quartiers où on retrouve essentiellement les internationaux, enfin les non-nationaux. Mm-hmm. En France, les étrangers sont surtout concentrés soit dans le 16e arrondissement, soit dans la banlieue ouest, en fait autour des écoles internationales.
D'accord.
Et ce sont des des endroits où donc les hommes sont dans leur entreprise, où ils se retrouvent essentiellement entre cadres internationaux de toutes les nationalités, mais du même milieu, et les femmes, les enfants vont très souvent rester dans un univers d'expatriés, en fait, hein, avec la sociabilité des écoles. Les écoles sont très très, il y a une très forte sociabilité dans ce milieu-là. Ils voient beaucoup de gens, ils sont souvent très contents de cette vie d'expatriés, où alors on a plein d'amis, on sort tout le temps, etc. Mais c'est un milieu très très homogène socialement. Il n'y a pas beaucoup finalement de, il y a à la limite, il y a très peu de d'occasions de rencontrer finalement d'autres classes sociales, hein. Déjà même les nationaux, rencontrer ne serait-ce que des Français par exemple qui seraient jamais allés à l'étranger, etc., etc., pour plusieurs raisons, hein. Bon, il y a une part les occasions de rencontre, hein, voilà, c'est les écoles, les entreprises, etc. Il y a les dispositions, on est plus attiré par des gens comme ça qui viennent de l'étranger, à qui on a des choses à se dire, etc., etc. Et puis eux me faisaient remarquer qu'il y avait aussi une certaine fermeture de la société française, hein, la bonne bourgeoisie française, hein, qui, voilà, qui trouvait que c'était difficile de rentrer dans les cercles français. Alors, l'ouverture culturelle, donc oui, en un sens, oui. Par exemple, pour la France, hein, ils avaient beaucoup d'activités culturelles, hein, les visites des musées, ils s'intéressaient beaucoup à la cuisine française, à... Oh, je sais plus, enfin, ils faisaient des choses comme ça. La culture française, en ce sens-là, était très importante, hein. Puis c'était aussi quelque chose qu'ils voulaient transmettre à leurs enfants, des cours de conversation, les langues, voilà, les choses comme ça. Mais alors, d'autres classes sociales, non.
La culture, oui, mais les gens.
Oui, voilà, pas
de... forcément.
Voilà. C'était, bon, après.
Pas forcément de leur fait.
Voilà.
Ce qu'ils en disent, mais.
Oui. Je pense que c'est des... C'est quand même des univers assez clos quand même sur eux-mêmes, hein, ce qu'on peut à la limite comprendre, hein, c'est peut-être plus facile de voyager si on retrouve tout de suite ses repères. Voilà, il y a un côté où on est un peu chez soi, enfin c'est ce qu'il m'expliquait, dans ces quartiers internationaux, on se retrouve assez vite ses repères, les écoles, les clubs, etc., etc. On retrouve des gens un peu comme nous. Ils sont extrêmement, puis c'est pas non plus, voilà, ils sont extrêmement, c'est très valorisé la diversité des cultures, hein, pour justement, enfin par rapport aux soucis donc d'accumuler des expériences, des compétences, etc., etc. Par contre, voilà, rencontrer des gens d'autres classes sociales, c'est pas quelque chose qu'ils recherchent non plus particulièrement, hein, donc c'est des gens qui sont pas dans leur univers, bon, à part le personnel de service voilà, mais et qui en plus ne les attirent pas non plus, plus que ça, quoi. C'est donc à la limite, socialement, c'est plutôt un univers relativement fermé.
D'accord.
J'ai moins travaillé sur cette question, mais je me dis qu'on doit trouver ça dans beaucoup de formes de mobilité internationale. Les étudiants, par exemple, Erasmus, voilà, il y a eu des travaux sur, je sais pas, j'imagine que ça fait aussi partie de ce sur quoi vous travaillez, hein. Les étudiants Erasmus, hein, je pense à ce que raconte Magali Balator, etc. Il reste quand même beaucoup aussi entre étudiants internationaux. Voilà, c'est des cercles internationaux où on a une énorme ouverture en termes de nationalité, mais finalement, ça va avec une clôture sociale.
Oui.
Et pour d'autres choses aussi, je remarquais ça. Par exemple, les cadres internationaux, alors là, c'est pas les étudiants, là, je suis dans mes familles expatriées, etc. C'est des gens qui se prétendaient très modernes, enfin, qui se définissaient eux-mêmes comme extrêmement modernes, allant vers l'avant, l'avenir, l'avant-garde, qui remettaient un peu dans le passé, dans le passéisme, tout ce qui était frontières, les vieilles traditions françaises, etc. Par contre, sur d'autres sujets, ils étaient beaucoup plus conservateurs, hein, donc notamment, sur le sujet, par exemple, du travail des femmes, voilà, c'était quand même essentiellement des hommes qui bougeaient, les femmes les suivaient, et là, voilà, il était clair que la priorité, c'était quand même le bien-être des enfants qu'il fallait accompagner à l'étranger, etc. Donc, les carrières féminines passaient, mais c'était intériorisé par les femmes, hein, c'est un peu une des conditions de cette mobilité aussi, ouais.
D'accord, même si elles ont des niveaux de diplôme tout à fait équivalents, elles sont issues des mêmes formations d'ailleurs
que leur
conjoint.
Oui, c'est étonnant et je crois que ça n'a pas tant changé que ça en fait. Bon, il y a plus maintenant de cas où les couples expatriés arrivent à avoir tous les deux une carrière, mais pas tant que ça quand même, hein, d'après les dernières thèses où j'ai été sur cette question-là. Ça reste quand même un milieu assez conservateur de ce point de vue-là, où la femme suit
son mari
et organise la sociabilité de la famille à l'étranger.
Vous avez développé la notion de capital international pour penser les ressources dont disposent les élites. Si la mobilité joue un rôle important dans la constitution de ce capital, celui-ci est-il antinomique d'un enracinement local des élites?
C'est déjà un peu... Alors, le capital international, oui, c'est le terme que j'ai utilisé pour désigner hein, ces formes spécifiques de capitaux. Alors, dans tous les sens, hein, linguistique, culturel, social, avoir des réseaux de relations dans tous les pays, économique aussi, parce que ça va aussi avec avoir des propriétés. On bouge beaucoup plus facilement si on a des propriétés, déjà c'est soi, parce que voilà, s'expatrier, revenir et savoir qu'on a un chez soi, c'est plus facile, mais aussi à l'étranger. Donc, donc ce sont des formes internationales de capitaux. Différents, c'est un capital qui à la fois effectivement se consolide, s'accumule avec la mobilité, je suis tout à fait d'accord, mais la mobilité ne suffit pas, c'est-à-dire que bouger si on n'a rien, à la limite ça ne sert pas à grand chose quoi. Si vous n'avez pas par exemple, vous pouvez toujours aller vivre, je sais pas moi, à New York 6 mois, si vous n'avez pas a priori déjà les réseaux, les dispositions pour accumuler du capital social, bon, vous allez rester, ça va être très sympa, vous serez 6 mois à New York, mais vous reviendrez, vous n'aurez rien. Donc voilà, il y a aussi, c'est un multiplicateur en fait, c'est ça que je veux dire. Le capital international, pour moi, c'est vraiment un multiplicateur. On a des ressources initiales et avec une mobilité bien pensée, on peut multiplier justement ces ressources. Si on n'a pas les ressources initiales et qu'on bouge simplement, voilà, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça qui vous permet d'accumuler du capital. Donc du coup, enfin, en disant ça, effectivement, l'ancrage local n'est pas du tout antinomique avec le capital international. Et même au contraire, je pense que c'est une des conditions pour que la mobilité fonctionne comme capital. Il faut déjà avoir des ressources au niveau national. Donc ça, on le voit dans différents domaines. Hein. Par exemple, voilà... professionnellement, souvent ce sont les carrières internationales les plus stratégiques, ce sont celles qui permettent de jouer sur ses propres positions nationales. Donc ce sont souvent des gens qui ont déjà, par exemple, fait des études très reconnues dans leur propre pays, l'école polytechnique, etc., qui vont avoir les carrières internationales les plus réussies. L'international multiplie des capitaux qu'on a accumulés chez soi, dans les relations de... Le prestige, la notoriété, etc. sont souvent les gens les plus reconnus chez eux qui ensuite vont être invités à l'étranger, reconnus à l'étranger, etc., etc. Et d'ailleurs, les écoles internationales des enfants insistaient beaucoup là-dessus, en fait. Ce sont des écoles internationales qui mettent beaucoup en scène, justement, la culture internationale, etc. Mais à chaque fois, en disant, c'est important que les enfants soient ancrés dans leur propre culture, etc., etc. Ce qui est en quelque sorte sociologiquement logique, c'est-à-dire que c'est l'accumulation de références et de capitaux multiples qui permet de produire plus. Hein. Si les enfants ne parlent plus qu'un franglais homogénéisé, ça a pas, c'est pas un capital. Mais si voilà, ils parlent parfaitement, enfin, ils sont très forts en japonais, qui est leur langue maternelle, et en anglais et en français, là c'est un capital international. Donc ça s'additionne plutôt que ça additionne des capitaux nationaux plutôt que de les remplacer, oui, il me semble.
D'accord. Oui, c'est ça. Les racines font d'autres racines et c'est de ce mélange-là, finalement, que se multiplie le capital.
Oui. C'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'il faut partir de... il faut déjà avoir quelque chose à additionner, à échanger pour pouvoir prétendre à accumuler du capital international. Et souvent, les gens, quand vous regardez les gens qui ont des très hautes positions internationales, ce sont souvent des gens qui sont aussi des notables chez eux, qui peuvent être reconnus comme des vieilles familles. L'aristocratie n'a pas attendu la période récente pour s'internationaliser. Hein. C'est un peu une sorte de multipositionnalité, c'est-à-dire de savoir à la fois quand de temps en temps se présenter comme très national, très ancré dans les traditions. National, etc., et de temps en temps montrer qu'on est un héros de la mondialisation, qu'on en est international, etc. Et c'est vrai, ce sont des gens qui ont les deux ressources. Hein, qui... Harvard, par exemple, hein, maintenant, ça fait vraiment dans les années 20, il y avait déjà des aristocrates français, c'était déjà un recrutement international. Donc les vieilles familles sont finalement les premières à s'être internationalisées.
D'accord. Et est-ce que les gens que vous avez rencontrés, alors là, on voit bien, sont dans une étape de leur vie professionnelle, familiale, où ils bougent beaucoup, enfin tous les 3 ans, vous disiez en moyenne.
Oui, oui.
Est-ce qu'ils anticipent, se projettent dans un retour sur un... Enfin, je ne sais pas si on peut dire dans leur... dans leur pays d'origine ou en tout cas dans une localisation particulière?
C'est difficile de dire en général, hein, ça dépend un peu, mais ils ont un peu, je pense que là où c'est important, c'est qu'ils ne veulent pas forcément tous rentrer, mais ils ont tous en tête tout de même ce que vaut l'expérience internationale chez eux. D'accord. Et ça explique beaucoup des stratégies migratoires, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, dans les familles, j'opposais toujours les familles japonaises, par exemple, hein, où l'internationalisation est un peu plus récente, et qui avaient toujours dans leur tête qu'il y avait un moment où il faudrait rentrer pour la carrière du mari, parce que les décisions se prennent quand même au siège, mais ça c'est pas qu'au Japon, hein. En France aussi, il vaut mieux être près des lieux de pouvoir quand se prennent les décisions de carrière. Pour les enfants, parce que les écoles japonaises sont très compétitives et que les diplômes internationaux permettaient pas forcément l'entrée dans les meilleures universités japonaises. Et là en France, les Français raisonnent aussi un peu comme ça, enfin, c'est-à-dire que l'époque, enfin, à un moment, ceux qui veulent envoyer leurs enfants en classe préparatoire, etc., ont aussi un peu, enfin, se disent aussi qu'il y a un moment où il faut rentrer au monde du lycée, etc., etc. Et puis d'un autre côté, donc pour moi, le Japon et même la France, ça faisait un peu partie des pays où l'international n'était pas totalement reconnu. Bon, ça a un peu changé pour la France depuis, mais ça reste ce pôle-là. Et puis un autre pôle, donc ça c'est par exemple les pays du Nord, la Suède, etc., les Pays-Bas, où il n'y a pas à choisir en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qu'on accumule à l'étranger, on sait qu'on pourra le revaloriser chez soi. Donc ils sont peut-être plus sereins, voilà, ils n'ont pas l'inquiétude de « il faut rentrer à Amsterdam ». Parce qu'ils savent que leurs enfants, leur carrière, enfin, vont pas pâtir d'un éloignement trop long. Mais je pense que ça, c'est cette valeur de l'international dans le champ national est très importante pour comprendre les stratégies de mobilité, oui.
Merci Anne-Catherine Wagner.